quelque chose en toi, c'est de l'intime dans le militantisme.
Pour montrer qu'on peut changer le monde sans être le Che Guevara ou Greta Thunberg.
Quand j'étais au conservatoire en trompette, on est régulièrement sur des scènes. Sur le moment donné, on arrive avec son instrument, on fait le raccord, donc ce petit filage, cette petite répétition avant concert, et on vit pleinement l'événement et le concert et la musique. Autant après coup, je me rends compte que dans ce que je regardais, ce qui m'intéressait, c'était souvent tout l'environnement autour, les coulisses, les équipes techniques qui travaillaient là, le décor, la manière d'agencer tout ça, même la manière dont le public rentrait dans la salle. Et finalement, je me rends compte que c'est ça vers lequel j'allais aussi.
Est-ce que c'est un garçon ?
Oui.
Est-ce que
tu as
des lunettes ?
Oui.
Wow. Bonjour, donc je m'appelle Samuel Brouillet, je suis de métier directeur technique pour le spectacle et l'événement. J'ai 48 ans.
On est au studio de GTFM, on est avec Samuel et son fils Germain qui sont venus dans cette matinée ensoleillée et on commence cet enregistrement dans les bonheurs du printemps qui arrive.
Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais dans la vie, en quoi ça consiste, l'activité qui occupe tes journées ?
Mon travail consiste à accompagner des organisations de spectacles ou d'événements pour préparer leur événement sur les aspects techniques, logistiques, réglementaires aussi, ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. En parallèle, enfin en complément de ça, je suis aussi directeur d'une entreprise de direction technique qui s'appelle Zébulon Régie et qui a été créée il y a 10 ans, en janvier 2015. J'ai commencé d'abord en intermittence dans ce métier-là, puis avec la structure Zébulon Régie tout seul pendant 2 ans quasiment. Et puis ensuite, l'activité prenant de l'ampleur, on a commencé à embaucher des gens et on était jusqu'à 14 personnes en 2024. Voilà, on est une dizaine actuellement. C'est très chouette parce qu'on travaille sur des projets très variés comme des festivals de musique en plein air, comme le Festival des Poupées ou le Dopcamp. On travaille sur le Festival des Trois Continents, Festival de cinéma à Nantes, bien connu. On travaille auprès de collectivités pour les journées portes ouvertes du CHU qui vont arriver bientôt ou pour les journées du patrimoine. On travaille sur des projets divers et variés auprès d'agences événementielles pour des salons aussi. Et puis personnellement, j'ai eu la chance de faire une petite parenthèse de 11 mois puisque je suis parti entre septembre 2023 et août 2024 à Paris pour travailler sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et ça, c'était une expérience magnifique et très enrichissante parce que forcément... Je sors un petit peu de ma zone de confort, de mes collègues nantais et des événements nantais que je connais. Et je me retrouve voilà, avec d'autres professionnels de haut vol et on construit un des plus beaux événements de l'année 2024. Donc c'est très très chouette.
Ah mais tu as plein de choses à nous raconter. Oui.
C'est magnifique. Est-ce que tu as reçu l'appel de Thomas Joly ? Comment ça s'est passé ?
Pas du tout.
Raconte-nous comment ça s'est passé. On est trop curieux ici.
Alors, Thomas Joly, brillant qu'il soit, n'était pas du tout sur cette partie de la maîtrise d'œuvre. Il était vraiment sur la direction artistique. Moi, j'ai eu un coup de fil du directeur technique principal de la cérémonie qui s'appelle Vianney Delru. On se connaissait un petit peu depuis quelques années. On avait des connaissances communes, donc on avait pris le temps d'échanger par visio. Et à un moment donné, il cherchait à faire grossir l'équipe. Et il m'a passé un coup de fil. Quand je suis arrivé à Paris, on était 60 déjà. Quand Vianney a commencé, ils étaient 4. Quand on a abouti à la cérémonie, on était 250 à préparer l'événement depuis quelques mois. Donc voilà, en l'espace de un an et demi, ils sont passés de 4 à 250. C'est voilà, ça vous donne un petit peu l'image des besoins de recrutement qu'il y a eu pour ce projet-là et de la vitesse à laquelle il a fallu avancer pour aboutir au projet. Ouais.
Et tu y faisais quoi alors ? La même chose qu'à Nantes, c'est pour ça que tu dis que tu es sorti de ta zone de confort, c'était géographique, il y a un événement d'une beaucoup plus grosse ampleur, ou tu as fait des choses que tu ne faisais pas vraiment
J'ai fait mon métier de directeur technique. Mmh. La spécificité de la cérémonie, ou en tout cas de ma mission, c'est que le chantier était tellement tentaculaire, je prends souvent l'image qu'on a pris la totalité des missions de mon métier, on l'a fragmenté en 30 parties, on m'en a donné un trentième, et on m'a dit, ce un trentième va te prendre tellement de temps que vous allez commencer à 2, mais même dans ton équipe, vous allez finir à 8. C'est-à-dire que voilà, même le un trentième débordait, une personne ne suffisait pas. Quand je suis arrivé, il y avait Thiago qui était présent, qui était un technicien de AutoCAD, de logiciel qu'on utilisait. Et en mois de juillet, dans mon équipe, dans le pôle d'intégration, on appelait, on était 8 parce que j'avais un adjoint avec moi, j'avais un assistant de direction technique, j'avais 3 autocadistes, 2 réisseurs pour tracer le site. Donc vraiment, ce qui a été marquant pour nous tous, c'est cette capacité en fait à resserrer notre métier sur un fragment de notre métier habituel et pas du tout s'occuper du reste parce que de toute façon on n'avait pas le temps et la bande passante, et du coup de s'hyper spécialiser dans une petite partie de notre métier.
Du coup, c'est bien parce que ça aide à fragmenter ton métier dans ces 30 parties. Tu peux peut-être nous dire ce que c'était le 30e pour les JO, et puis après nous expliquer ce que sont les 29 30e restants au quotidien dans ce que tu fais.
Tout à fait. Pour la cérémonie, j'étais directeur technique, conception et intégration du site. Donc moi, mon travail, j'étais le gendarme des mètres carrés, on appelait ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses à mettre. C'était plutôt pour les infrastructures qui accueillaient du public. La partie spectacle, un petit peu, mais moins. Et donc, voilà, on a des quais, les quais bas sur lesquels on va accueillir du public. Il faut qu'on mette des gradins, il faut qu'on mette des sanitaires, il faut qu'on mette, faut que les accès soient bons, y compris les questions normatives d'accès pompiers, à boire, à manger, etc. Et donc, l'agencement de tout ça, la conception de l'organisation de l'espace, c'était à moi de le piloter avec mon équipe et de recevoir aussi les demandes techniques du responsable audiovisuel qui disait à tel endroit, il faut qu'on mette un écran géant pour que les gens voient ce qui se passe avant et après le passage de la parade ou du spectacle devant eux. Donc voilà, c'était vraiment lié au plan. Hein, c'était vraiment lié au plan d'implantation. Dans les petites anecdotes, on avait au mois de mai-juin, on avait entre 80 et 150 modifications de plans par jour. Et on envoyait au moins un export de plans, voire deux par jour, qui prenait 20 à 35 pages. Quoi. Donc c'était une machine que j'ai beaucoup travaillé dans les process et dans l'organisation pour que ce soit une machine huilée qui avance malgré toute la pression qu'il y avait autour et que justement on puisse délivrer en temps et en heure les plans tous les jours avant de partir rentrer chez soi et d'avoir fait toutes les modifications de la journée.
Et toi Germain, t'as vu ton père pendant ce temps-là ?
Je l'ai pas beaucoup vu, mais des fois on est allé un petit peu à Paris pour qu'on se voit.
Et t'as pu assister aux Jeux Olympiques un peu, à la cérémonie d'ouverture ?
Alors pas à Paris, mais depuis ma télé, oui.
Oh, bah c'est bien aussi. Oh, tu ouais. Savais que ton papa avait participé à ça, quoi.
Exactement. Ouais, qu'il était derrière, en train de bouger les différentes manettes pour que ça se passe bien.
Heroes for ghosts, hot eyes. Pour revenir au quotidien, est-ce que tu peux peut-être nous raconter les différentes facettes de ton métier ? Bon, on a compris un peu, mais et puis aussi l'équipe de 10 personnes, 10 en tout, ou 9 en plus, je ne sais pas. Vous êtes 10 en tout ?
Là, une dizaine, on est ouais, un petit peu moins là, mais on est...
C'est quoi la variété aussi de, peut-être de spécialisation, ouais. De métier ? En gros, voilà, qu'on arrive à s'imaginer ce que vous faites.
Alors, le métier de directeur technique ou de directrice technique... consiste vraiment à être au service d'un projet, accompagner une organisation. Je prends souvent un exemple simple. Demain, un organisateur vient me voir en disant « je veux faire le concert de Vianney sur la place de la Petite Hollande ». Il ne va pas savoir quelle taille de scène choisir, il ne va pas savoir négocier avec la production artistique pour avoir des conditions d'accueil qui soient bonnes pour l'artiste, mais aussi optimisées d'un point de vue du contexte de Nantes, du budget aussi. Il ne va pas savoir quel kit technique, son, lumière, vidéo mettre en place, quelle arrivée d'électricité par exemple. Il ne va pas savoir comment on va gérer la fermeture d'un site, combien de toilettes on met, quand on veut mettre un bar, quelles sont les différentes structures à mettre en place, à nouveau l'électricité, les arrivées d'eau, le réseau internet, voilà. Donc toutes ces solutions techniques qui découlent en fait d'un projet, c'est la direction technique qui va les préfigurer, c'est de l'ingénierie, hein. On est les ingénieurs du spectacle et l'élément, et on arrive avec une solution, souvent qui est à travers un plan d'implantation, en disant voilà le plan de votre événement, voilà ce qui va se passer, voilà comment ça se passe en termes de flux de public. Et puis la direction technique a un rôle très important aussi dans les organisations, c'est celle qui est sachante sur les questions de conformité, de réglementation, de normes. On est formé à ça. Et donc, du coup, c'est notre rôle aussi d'accompagner l'organisateur en disant là-dessus... le plan Vigipirate, ça se déroule de telle manière. Les besoins pour les pompiers, s'ils ont besoin d'accéder, ou la conformité des installations d'un point de vue sécurité incendie, c'est comme ça que ça se passe. On a de l'électricité, donc il faut faire intervenir un bureau de contrôle, par exemple, pour vérifier telle ou telle chose. Donc ces aspects-là, c'est nous qui le portons et qui permettons aussi, et c'est notre rôle hein, et notre responsabilité, que l'événement puisse être... en conformité par rapport aux différentes lois et donc protéger l'organisateur pour éviter qu'il se retrouve au pénal, au tribunal s'il y a un problème, quoi. Voilà, et puis après, très lié au métier de la direction technique, il y a le métier de la régie générale qui est plutôt le pendant opérationnel, c'est-à-dire la préparation, la planification, la mise en œuvre, le management des équipes, du début des montages jusqu'à la fin du démontage. Voilà, grosso modo, on a dressé un panel déjà pas mal de ces métiers-là et qui sont essentiels en fait aux événements.
Et je me demande aussi, Samuel, dans quel cadre travaille Cévoulé en régie ? Quelle est la structure ? Quel est son modèle ? Sa vision du monde ? Ses valeurs ?
Oui, ça c'est une bonne question. Alors, Cévoulé en régie a été créé en 2015. Moi, j'étais intermittent du spectacle avant. on pourra y revenir, mais j'avais un autre métier encore avant. Mais il y a eu trois piliers fondamentaux à cette création. La première, c'est que ça faisait plusieurs années que je travaillais en tant qu'indépendant intermittent et que je souhaitais aligner mes valeurs autour de, notamment du développement durable, de l'éco-responsabilité dans ce métier-là. Et que bah, quand on est juste salarié, on n'a pas de moyens de structure. Donc la création d'une structure où on a tout de suite mis en place des plans de recherche et développement pour améliorer notre impact concret en tant que maîtrise d'œuvre, ça on l'a fait très tôt. Et puis les deux autres intuitions qui sont plus liées à notre métier, c'était que le binôme directeur technique régisseur général est très riche et très important, mais que certaines structures n'ont pas les moyens d'embaucher deux personnes. Et donc, quand elles viennent nous voir, elles travaillent avec un régisseur général ou une régisseuse générale de Zémologie, mais derrière, il y a dans l'équipe un ou des directeurs techniques qui sont dans l'accompagnement. Il y a un dessinateur projeteur qui s'occupe de faire tous les plans et qui est spécialisé dedans. Il y a un chargé de sécurité et de conformité qui est spécialiste dans les questions réglementaires. Il y a un directeur technique design électrique qui, lui, s'occupe de toute la partie électricité. Donc, quand on fait appel à la Zémologie, on fait appel à une équipe avec des spécialités très fortes et qui viennent complémentairement permettre de produire le projet, quoi. Mais cette vision, en tout cas, de l'approche RSE de la direction technique, elle a été là dès le départ. Moi, je m'en suis fait un petit peu... je ne sais pas si je peux dire une marque de fabrique, mais en tout cas, on a beaucoup travaillé ça en R&D, donc on a commencé à nous questionner sur ce qu'on faisait. Donc, j'interviens depuis 10 ans dans des tables rondes ou des conférences sur ces sujets-là, comment on aborde la RSE dans la direction technique. Et puis, ça a donné lieu aussi à une formation pour les directeurs techniques et directrices techniques sur l'approche durable et responsable. Je l'ai donnée il y a 2 jours, là. J'arrive de Rennes hier soir, où je travaillais avec 6-7 directeurs techniques qui se formaient à ça, quoi.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des spectacles, des personnes, des structures avec lesquelles vous ne voulez pas travailler ? Pour cette raison-là, vous avez déjà refusé des projets pour qu'on voit concrètement comment ça peut se traduire.
Alors, à la marge, oui, on a pu refuser des projets. On a fait le choix aussi de ne pas être trop limitant dans les projets qu'on acceptait de travailler, dans le sens où on pouvait aussi parfois hacker le système.
Voilà.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a deux tranches de prestations chez Zémologie, en tout cas d'approche. La première approche RSE, elle est interne. Notre client, il le voit pas. Voilà, c'est bête, hein, mais toutes nos équipes sont équipées d'une gourde. Ça fait 10 ans qu'on ne demande plus des petites bouteilles d'eau plastique. Ça paraît très très basique comme ça, hein. Mais n'empêche qu'en logistique, faut réinvestir dans les gourdes régulièrement et pas les perdre. Mais voilà, ça, le client, c'est pas son sujet. Il s'en fiche quelque part. Ouais, il y a plein de petites choses comme ça qu'on fait en interne qui sont plus ou moins visibles, mais qui n'ont pas d'impact sur l'image de l'événement ni sur le budget de l'événement.
Oui.
Et après, la deuxième tranche, c'est en effet d'être capable de proposer des solutions alternatives, plus durables aux clients qui, parce que c'est l'image de son projet et son budget, évidemment, il a son mot à dire, quoi. Je prends un exemple. Quand on a remporté un appel d'offres du département de la Vendée pour les Floralies internationales, oui, qui ont eu lieu en 2024... C'était 2 ans avant. Alors, le département de la Vendée est plutôt assez enclin au développement durable et à l'éco-responsabilité. Mais on avait, dans notre annonce, bien précisé qu'on n'allait absolument pas mettre des litres d'eau potable sur des plantes pendant le temps de montage et qu'il fallait trouver une solution. Et en fait, on a mis en place des bâches de récupération d'eau pendant l'hiver précédent, en 2023, qui nous a permis d'avoir un stock d'eau et, pendant les 3 semaines de montage, de ne pas faire appel à de l'eau potable. Et pareil, on avait une politique de zéro groupe électrogène, donc on a travaillé pour avoir des solutions alternatives pour ne pas avoir de groupe électrogène. Donc c'est en ce sens-là que notre ingénierie, notre approche peut permettre aussi à des organisations qui sont pas forcément très encline, oui, aux questions de RSE.
Ou qui ne connaissent pas comment faire.
Ou qui ont besoin d'être sensibilisés, qu'on rentre dans le dur avec eux, qu'on leur dise, bah voilà, nous, c'est notre capacité, c'est notre compétence, on vous propose ça, après vous disposez, on reste un prestataire, hein, de service, oui, mais ça permet de faire réfléchir et parfois de faire évoluer des organisations.
tu peux nous raconter ton parcours pour arriver à la création de cette structure ? Ce que tu as fait, d'où tu viens, la famille dans laquelle tu as grandi, voilà, tout ce qui peut expliquer là, pas ce que tu fais, mais qui tu es et comment tu es arrivé à nous rejoindre ce matin pour parler de toi.
Ok. Alors, moi, je viens d'une famille de 5 enfants, avec des parents cathos, de gauche, décroissants. Donc déjà, ça fait dans la tête, ça fait wow. Oh, alors attends, ok. Donc c'est vrai que déjà cette notion de valeur, de respect de l'autre et de la planète, c'est quelque chose qui a été très très fort chez nous. Sans que d'ailleurs, quand t'es enfant, t'en prends pas conscience. C'est après que tu t'aperçois que quand on parle un petit peu de résilience et de décroissance en ce moment, tu dis bah en fait oui. Alors là-dessus, mes parents étaient très très en avance sur la société. Donc c'est vrai qu'on avait on n'avait pas beaucoup de moyens entre guillemets hein, sans être pauvre. On était dans des moyens limités, on faisait attention, mais jamais sur le côté culturel. J'aurais pu rajouter cathode de gauche décroissant intellectuel aussi. Donc voilà les vacances en famille, c'est on prend la voiture, on va au fin fond de la Cambrousse, on loue un gîte qui est perdu et qui coûte pas cher. Et pendant 15 jours, on prend les vélos pour faire tous les déplacements. On mange des sandwichs. Je me souviens pas avoir été une seule fois au restaurant avec mes parents quand j'étais enfant. Par contre, quand il a fallu m'acheter une trompette parce que je voulais jouer de la trompette, il n'y a pas eu de sujet. Quand il a fallu, je dis que je voulais faire du sport et de la natation. Voilà. Ni moi ni mes frères et sœurs avons été limités dans les activités de développement personnel, sportif, musicaux, intellectuels, voilà. Donc ça a été très fort, très très fort chez nous. Moi, à 7 ans, je voulais être professeur de trompette, comme mon oncle. Il y a une histoire avec cet instrument. Mon grand-père était trompettiste. Il a été président de la Philharque, un des orchestres d'harmonie de Nantes bien connu. Mon oncle est professeur de trompette à Carquefou. Et donc j'ai commencé la trompette. Je suis passé par le conservatoire de Nantes. Je me suis assez rapidement aussi passionné en dehors de la partie classique qui était très chouette et très structurante, mais pour le jazz qui amenait vraiment un espace de liberté musicale et artistique, d'improvisation qui était chouette. Et puis j'ai commencé à jouer dans des groupes de musique et à jouer aussi du clavier, de la guitare, chanter, voilà, un peu multi-instrumentiste. Et après mon bac, en fait, j'avais tellement poussé le bouchon au conservatoire, en classe de trompette, mais aussi d'écriture de composition harmonique, de classe d'orchestre, etc., que finalement, c'était un peu trop. Donc je me suis dit, je ne vais pas être prof de trompette. Je n'ai pas envie de tous les jours jouer cet instrument. J'ai envie d'être un peu plus généraliste. Je suis parti en fac de musicologie à Tours. Mais oui, un peu par hasard. Et puis ma sœur, qui avait 2 ans de moins que moi, parce que alors moi j'avais redoublé ma première et puis j'avais pris un an que pour le conservatoire, donc on se retrouve un peu par hasard à rentrer en fac de musico en même temps. Elle voulait être institutrice, professeure des écoles, maintenant on dit. Mais comme elle était musicienne, comme en fait on était tous musiciens à la base, on a tous joué d'un instrument de musique dans la famille, fallait une licence à l'époque pour être prof des écoles, donc elle rentrait avec moi à la fac. Voilà. Et fin de licence, deux choses un peu marquantes. D'abord, ma sœur décède d'un cancer qui s'est déclaré assez tardivement, enfin vers 17 ans, mais qui traînait un petit peu. Elle a été guérie, puis malheureusement, elle a rechuté. Donc ça, c'est pareil, d'un point de vue parcours et familial, ça marque. Hein. Ouais, moi, j'avais 22 ans à l'époque. Mon plus jeune frère, qui était au bout de la chaîne, entre guillemets, avait 12 ans. Donc on est entre 12 et 22 ans à perdre une sœur qui a à peine 20 ans. C'est très marquant. Et j'ai eu mon année. Miraculeusement, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi des choses qui portent. Et fin licence, je me dis, j'ai deux choix, soit je sais pas trop ce que je fais, soit éventuellement j'embrasse une carrière plus musicale de concert, mais à l'époque j'étais pas tout à fait prêt, je pense, psychologiquement, soit je vais vers le CAPES. Et je dis, bah,
c'est quoi les CAPES, pardon ?
Le CAPES, c'est pour devenir enseignant en éducation musicale en collège. Okay. Je me dis, ouais, la prof de musique que j'ai eue en collège, elle était pas top. Ça doit pas être très compliqué de faire mieux.
On pense toujours ça. Hein.
Prenons un petit challenge, voilà. Et puis, je savais que j'avais une carte à jouer avec un profil un peu atypique par rapport à mes autres collègues de la fac et du CAPES, parce que j'avais ces trois cultures, du classique, du jazz et des musiques actuelles. Donc, je passe mon CAPES. Je me donne comme objectif de faire 10 ans maximum dans l'éducation nationale, parce que je voulais pas faire une carrière. Je continue à jouer de la musique dans des formations musicales en parallèle. Et puis, je propose au chef d'établissement de monter un festival de musique avec les collégiens. Une idée qui s'est avérée assez géniale, sans que je le pense comme ça, mais l'idée, c'était que les collégiens fassent tout, la préparation, la coordination. En cours d'art plastique, ils dessinaient l'affiche. En cours de français, ils faisaient le communiqué de presse. On est bien d'accord que ils ne jouaient pas. Hein. Ce n'était pas un propos artistique. Ils faisaient la programmation avec moi. Donc, on lançait un appel à candidature aux groupes régionaux Pays de la Loire qui postulaient, recevaient 150 maquettes. On écoutait tout. Avec les élèves. Je leur apprenais à noter, je leur apprenais aussi à prendre de la distance avec leur propre goût, en voyant ce qui était de l'ordre du qualitatif et ce qui était de l'ordre de plutôt de ce qui était leur intérêt musical, mais finalement qui n'était pas très qualitatif. Donc comment on prend un peu de recul là-dessus. Et puis je me retrouve dans cette magnifique salle à Cap Nord, à Nord-sur-Erdre, la salle Cap Nord, accompagné par l'équipe en place, le directeur culturel et le régisseur général, qui la première année nous accueille, fait ce qu'il a à faire, et puis au fur et à mesure, parce que ça a duré 9 ans cette histoire-là, au fur et à mesure me laisse de plus en plus la main en fait sur la régie générale de l'événement, m'accompagne, me forme, et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, la régie générale, c'est ça que j'ai envie de faire, la régie générale étant l'antichambre de la direction technique, c'est ça qui m'intéresse. Et donc quand au bout de 10 ans d'enseignement, je me dis que j'ai passé un peu j'ai fait le tour de l'enseignement en collège. Je me dis, je vais aller vers ces métiers-là. J'avais un peu touché au son en studio avec mes groupes, un peu en live aussi. J'avais des compétences techniques de son qui étaient très correctes. Et donc, je demande, j'ai presque fini. Je demande un aménagement d'emploi du temps pour reconversion professionnelle. Donc, je devais être à mi-temps. 2-3 jours par semaine au collège, et puis pouvoir commencer à travailler sur des événements. Et notamment, je rencontre Raphaël Godard des Écosolis, qui n'est plus maintenant, et qui me dit, on cherche un régisseur général pour l'autre marché des Écosolis, Square d'Aviet, pour l'édition 2013. Et donc, on s'entend, et ça marche, on commence à préparer. Ça, je le savais avant l'été, et puis en septembre, à la rentrée des classes, j'ai un emploi du temps qui est sur 5 jours au lieu de 3. Et là, j'ai un dilemme, c'est que soit j'accepte cet emploi du temps, mais je n'ai plus de temps pour préparer l'autre marché. Et puis, il y avait un autre petit festival qui m'avait demandé, le festival L'Air de Rien, qui n'existe plus maintenant. Et je compromets, donc ça veut dire que je suis obligé de me faire remplacer. En tout cas, je ne peux pas travailler. Soit je démissionne. Et donc, j'ai démissionné. Je démissionne, j'ai le droit à une petite enveloppe, donc je claque tout dans les formations pour faire ce métier-là. Et je me retrouve intermittent quelques mois après, et au bout de 2 ans d'intermittence, je décide de fonder Zébul en Régie pour justement porter ces projets plus autour de la RSE et du travail ensemble. Quoi.
Et tu l'as fondé tout seul ou tu étais avec une clique dès le démarrage?
Avant Zébul en Régie, il y avait une association qui s'appelait Zébulon Production, dans laquelle il y avait un collectif de techniciens. Donc, moi, j'ai mené un peu l'idée. Passons donc en entreprise et continuons à travailler ensemble. J'ai monté avec 2 associés qui étaient dans ce collectif-là, Benoît qui est mon frère et Vincent qui était un ami d'enfance qui est arrivé, qui est régisseur lumière en fait, qui a fait un parcours en régie lumière, et Benoît étant du côté du son, donc on restait j'ai resté avec deux personnes du métier du spectacle et voilà, qui sont toujours présents à mes côtés.
Super. Et j'ai une petite question sur ce festival que tu as organisé. Est-ce que tu sais si ça a suscité des vocations chez certains élèves? Enfin, est-ce que tu sais ce que ça a pu leur apporter? Ou c'est quelque chose que tu n'as pas trop suivi?
Si, si, je sais, et ça a amené des vocations. Ouais.
Ouais.
Oui, il y a 3 ou 4 élèves. J'avais estimé à peu près que j'ai dû avoir à peu près 2000 élèves en 13 ans.
Wow.
Il y en a 3 ou 4 qui sont techniciens spectacle. Il y en a d'autres qui sont passés plutôt côté production. Le festival les a intéressés sur le côté organisation. Donc si, si, il y a des choses qui ont été mises en place, enfin qui ont été mises en place, qui sont apparues d'elles-mêmes. Et même d'ailleurs, il y avait un petit groupe de collégiens une année et qui jouaient. Et en fait, on leur a proposé de jouer en première partie. C'est-à-dire hors concours, entre guillemets, pour faire leur première grosse scène au festival. Et c'était chouette parce que du coup, voilà, ils sont éclatés, ils étaient dans des conditions professionnelles, ils jouaient devant leurs copains. Enfin, c'était un joli tremplin pour eux. Ouais.
Je me demandais, en t'écoutant, ton parcours, tes motivations, je me dis, pourquoi tu aimes faire ça? Et comment cela parle à l'enfant que tu étais, à l'ado que tu étais? C'est que tu fais maintenant, à Ciboulot-en-Régie.
Alors moi, je suis très sensible à la notion d'équité et d'équilibre, en fait. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup chez Ciboulot-en-Régie, notamment dans les aspects de management et de gouvernance aussi. Et alors, je ne sais pas ce que ça nourrit chez l'enfant ou chez moi. Je suis un perfectionniste. Donc, les perfectionnistes, souvent, il y a une notion de colère un peu à l'intérieur qui est heureusement gérée depuis quelques temps. Mais de par mon parcours et de par ma famille, c'est sûr qu'on a été très vite sensibilisés à la notion d'équité, de lien social, d'équipe sociale aussi. Et du coup, on a mis en place des choses très concrètes. Ben, on est depuis début 2024 société à mission, par exemple, et dans nos statuts. Les rémunérations des associés, par exemple, elles sont très encadrées par rapport aux primes des salariés, par exemple. Alors, il n'y avait pas de sujet, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avec mes associés. On avait tout de suite dit que la priorité était aux travailleurs. Mais on s'était dit aussi que si demain j'étais plus là, quelqu'un pouvait changer complètement les règles du jeu. Et donc Société à Mission nous a permis d'encadrer ça, nous a permis d'encadrer aussi dans notre mission le fait qu'on est en maîtrise d'œuvre de projet, en essayant d'y inclure au maximum les questions de RSE, de transition écologique et solidaire. Et puis le politique de gouvernance au sens large, quoi.
Donc on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup Samuel pour toutes ces explications sur un métier que personnellement je ne connaissais pas du tout.
Merci à vous.
On a l'habitude de terminer en musique ou en chanson et de laisser la parole et le choix à notre invité du jour. Donc qu'est-ce que tu aimerais nous faire découvrir ou redécouvrir pour quitter ce moment ensemble sur une touche musicale?
Eh ben, je vous propose le premier morceau du Köln Concert de Kijaret, qui a 50 ans, le concert, hein, pas Kijaret. Kijaret qui est un pianiste plutôt jazz, mais qui a passé plusieurs périodes musicales dans sa vie. Et vous pourrez aller voir, ça, on en a un petit peu parlé médiatiquement parce que ce concert, il est totalement improvisé. Il a été joué une seule fois et presque, enfin pas par hasard, mais en tout cas, Kijaret, quand il est arrivé sur place, le piano lui convenait pas et il était fatigué. Il a failli annuler le concert. Et finalement, il y a été et il a sorti un truc qui était totalement spontané, magnifique. Et voilà, 50 ans après, on en parle encore. Donc ce genre de trace musicale, c'est assez chouette. Et puis c'est très apaisant.
Allez, on y va.
Vous venez d'écouter Quelque chose en toi, une émission proposée par Marie Moisson et Leire Luengo.
Diffusé sur Jet FM tous les deuxièmes mercredis du mois à midi et en podcast sur le site de la radio jetfm.fr. On espère que ça vous a inspiré et que ça va vous donner vous aussi envie de vous lever et de vous engager.